Il est 18h sur France Culture, le journal Mathieu Laurent.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Mathieu.
Bonsoir à tous. Vers une convergence des luttes féministes en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, reportage de Diane Berger dans le cortège parisien. À urgence nationale, mesure exceptionnelle, la mise en quarantaine de 15 millions d'Italiens. Témoignage d'une habitante de Milan dans ce journal. En défaut de paiement, le Liban travaille à la restructuration de sa dette. Explication de Clotilde de Bigot à Beyrouth. Hashtag 8 mars vient enrichir la liste déjà abondante des références qui, au fil du temps, libèrent la parole des victimes de violences commises par les hommes cet après-midi à Paris. La marche des grandes gagnantes a rassemblé des dizaines de milliers de manifestantes. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir.
Diane, des femmes portées par une dynamique née de faits, de révélations et de luttes récentes qui leur offrent et des appuis et des espoirs.
En effet Mathieu, on aurait pu imaginer les féministes abattues par les résultats des Césars. Par exemple, le sacre de Roman Polanski, accusé de viol par 12 femmes différentes. Elles en sortent finalement galvanisées. Sur la pancarte d'Élise, par exemple, on lit...
J'ai écrit « On se lève et on se barre » en référence au texte de Virginie Despentes juste après les Césars quand Adèle Haenel est sortie de la salle. Ça signifie un peu le ras-le-bol qu'on a, nous les filles, à se prendre des réflexions tous les jours. Et pour tout dire, j'ai toujours eu des convictions féministes, mais c'est la première fois que je viens à ce genre de truc parce que j'en avais un peu marre. Même ma petite sœur et ma mère, on est toutes ensemble et on a envie de traduire ce ras-le-bol en venant ici aujourd'hui.
Et sur les affiches, dans les slogans, les références sont nombreuses à l'autrice Virginie Despentes ou l'actrice Adèle Haenel. Elena, la vingtaine, est comédienne et elle le reconnaît. Le prix donné au César à Roman Polanski, c'est une raison de se remobiliser.
Ça nous a tous mais tellement choqués, cette récompense, ces 12 nominations. Et le fait qu'il y ait autant de personnes qui l'aient défendu, ça met en lumière qu'il y a encore un problème aujourd'hui dans notre société qui est extrêmement virulent. Et je pense qu'il faut continuer, il faut y aller encore plus fort, il faut montrer qu'on est là parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de s'exprimer. Et justement, c'est en train de se libérer, la parole est en train de se libérer et c'est ça qui est magnifique.
Les Césars, mais aussi les chiffres des féminicides qui continuent de grimper, la répression violente d'une marche féministe aussi hier soir. Ces événements nourrissent le mouvement, confirme Catel. Gants de boxe autour du cou, cette professeure de sport de combat est venue avec les femmes de son club.
Avec le contexte là très très lourd en ce moment, on est devenu des vraies éponges et on est arrivé à saturation. Et moi dans le cadre de mon travail, je le vois, hein, pendant les cours de boxe, au moment où on se met au sac de frappe sur les cours féminins, où je leur dis allez-y les filles, vu ce qui se passe en ce moment, tout le monde en a gros, donc c'est le moment de boxer à fond, je vois que l'intérêt et l'implication physique comme mentale, elle est décuplée.
Et dans le cortège, malgré la pluie, Pascal, 58 ans, continue de marcher. Elle observe la situation des femmes évoluer depuis des années. Et là, en effet, elle trouve l'actualité difficile.
Ça montre exactement que la société ne change pas vis-à-vis de ce qu'est une femme. On peut s'en servir, on fait ce qu'on veut. À partir du moment où on a une certaine notoriété, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et puis sous prétexte qu'on a un peu de talent, ça renforce encore le pouvoir de l'homme sur les femmes. Et ça, c'est vraiment dommageable.
Malgré ce constat, la militante n'est pas défaitiste. Comme beaucoup d'autres aujourd'hui ou dans le cortège parisien, elle insiste. Il faudra plus pour qu'elle s'arrête de se mobiliser.
Merci à vous Diane Berger en cette journée internationale des droits des femmes. Bien d'autres cortèges en France et parmi les très nombreuses mobilisations à l'étranger, retenons cette action menée par des dizaines de militantes devant le siège du ministère de la Justice à Khartoum. Les femmes soudanaises ont été à l'avant-garde de la contestation du régime d'Omar El-Béchir, président chassé du pouvoir il y a 11 mois. Le nord de l'Italie en quarantaine au moins jusqu'au 3 avril. 1247 nouveaux cas et 36 décès ces dernières 24 heures. Au total, 233 personnes sont mortes dans le pays face au coronavirus. Les autorités ont mis en quarantaine la Lombardie, donc la ville de Milan, capitale économique. Marie-Astrid Roy habite à Milan depuis 11 ans. À Milan, où à ses yeux, la peur du confinement l'emporte sur celle du virus.
On sent une atmosphère très lourde et vraiment de panique. Hein. Parce que moi, je suis assez près de la gare centrale. Il y a beaucoup d'habitants qui ont vraiment tenté de fuir. Surtout donc des habitants qui viennent du sud de l'Italie et qui se sont embarqués dans les derniers trains qui allaient vers le sud de l'Italie. Je crois qu'on parle de 500 voyageurs. Donc oui, l'impression de panique. Et puis on la voit aussi après dans les supermarchés pris d'assaut. Je suis pas inquiète par le virus en lui-même. Je suis plutôt rassurée par ces mesures prises par le gouvernement, même si elles sont très, très handicapantes. des mesures aussi drastiques, non, c'était assez inattendu. Déjà, ça faisait plusieurs jours que des hôtels commencent à fermer, donc ça aussi, c'est très impressionnant. Voilà, donc la ville était déjà endormie, et très au ralenti, et là, elle va être complètement endormie.
Des propos recueillis par Sarah Calamand. C'est pour l'ensemble de l'industrie européenne 2 millions de nuitées en moins. Cela représente 1 milliard par mois de revenus qui sont perdus pour le tourisme uniquement à cause du fait que les touristes chinois ne viennent plus en Europe. Déclaration de Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Les autorités thaïlandaises tablent sur 6 millions de visiteurs étrangers en moins cette année. La compagnie aérienne Iran Air a suspendu tous ses vols en direction de l'Europe. Frédéric Martel, vous allez nous parler de l'économie de la culture en Italie et bien sûr en France.
Oui, on reviendra sur salles de cinéma, musées, salles de concert, boîtes de nuit fermées, ou en tout cas pour quelques semaines, les Italiens n'y vont plus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer en France ?
Eh bien, tout de suite. Riyad a également pris des mesures de confinement provisoire de la province orientale de Qatif, une province majoritairement chiite et productrice de pétrole. Principe de précaution ou opportunité de cadenasser ce que le royaume considère comme une menace et l'un des gisements de la rente. En tout cas, le prince héritier Mohamed Ben Salman, confronté lui aussi à cette crise virale, doit gérer un refus de la Russie de baisser le volume de production de brut. Ceci n'est pas strictement lié à cela, mais quoi de mieux en pleine tempête qu'une affirmation brutale de son pouvoir. Ainsi, l'héritier a ordonné avant-hier l'arrestation de trois princes, dont son frère Mohamed Ben Naïef, accusé d'avoir comploté. Lina Taghi a sollicité un fin connaisseur du royaume, l'ancien haut fonctionnaire Pierre Conessa.
L'ordre dynastique dans ce pays est assez particulier puisque c'est une succession qu'on appelle adelphique, c'est-à-dire c'est le premier fils de la première femme du fondateur Abdelaziz Ibn Saoud, ensuite c'est le premier fils de la deuxième femme d'Ibn Saoud, puis ensuite le premier fils de la troisième femme, etc. etc. Bon. Mohamed Ben Salman a changé grâce à son père cet ordre de succession puisque lui tout à coup il saute une génération et puis surtout il a effectivement mis en prison, enfin en maison d'arrêt ou en tout cas en résidence surveillée, le prince héritier qui était normalement désigné pour succéder à son père. Bon. Donc c'est un homme qui a bousculé beaucoup de ses traditions. Et effectivement, comme il est actuellement extrêmement fragilisé pour beaucoup de raisons, parce qu'il y a eu l'affaire Khashoggi, parce qu'il y a la baisse des prix du pétrole, parce qu'il est obligé de mettre des impôts, enfin, il est extrêmement fragilisé. Donc il est obligé de donner un coup à droite, un coup à gauche, c'est-à-dire de montrer qu'il est véritablement le patron. Et ces arrestations, effectivement, qui touchent au premier cercle de la famille royale, montrent que on ne peut pas prétendre lui succéder de manière complotiste. Donc on est quand même dans son premier cercle. Pourquoi ça vient de ce premier cercle ? Parce que n'oubliez pas que c'est ce premier cercle qu'il avait réuni à l'hôtel Ritz à Riyad et auquel il a soutiré entre 60 et 100 milliards. Donc on est vraiment dans une situation d'un homme qui est aujourd'hui aux aguets et qui attendait beaucoup de ses alliés occidentaux qu'il a largement déstabilisé avec l'affaire Khashoggi. Donc j'interviewe un peu cette chose-là comme une manière de rappeler qu'il est le patron et qu'il est prêt à taper même très proche du cercle de pouvoir pour montrer qu'il restera là, qu'il ne se laissera pas déposséder.
Pierre Conessa, auteur de Docteur Saoud et Mister Djihad chez Robert Laffont. Hier, le Premier ministre libanais affirmait que son pays ne rembourserait pas 1,2 milliard de dollars de dettes en devises étrangères des eurobonds qui viennent à échéance demain. Le pays qui traverse une crise sans précédent depuis sa guerre civile a aussi demandé une restructuration de sa dette. Explication à Beyrouth avec Clotilde de Bigot.
Un processus de restructuration de la dette a été lancé au Liban. Il s'agira alors de demander aux principaux créanciers de repousser la date d'échéance et de baisser les taux d'intérêt du remboursement. Le Liban doit alors négocier avec ses créanciers, notamment des fonds d'investissement, mais les deux tiers des titres de créance sont eux détenus par la Banque centrale et les banques du pays, ce qui facilite une restructuration mais met les clients des banques à risque. Les négociations, elles, commenceront dans 2 semaines, a indiqué Reuters. Pour accompagner le Liban dans cette période critique, 2 cabinets ont été nommés, l'idée étant d'éviter un haircut sur les dépôts, c'est-à-dire que l'État récupère une partie de l'épargne des clients des banques pour rembourser ses dettes. Cela fait plusieurs mois que les épargnants n'ont presque plus accès à leurs fonds en dollars, car le pays n'a plus assez de billets pour assurer les retraits de ses clients. Plusieurs économistes proposent à l'État de récupérer une partie des profits qu'ont fait les banques libanaises grâce au taux d'intérêt élevé du remboursement de la dette. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise et la valeur de la livre face au dollar continue de chuter. Elle a déjà baissé de plus de 50%.
Au Niger, une importante base militaire du sud-est du pays attaquée à l'arme lourde par des combattants de l'organisation djihadiste Boko Haram qui ont pu viser cette place forte parce que la rivière qui fait la frontière avec le Nigeria ne fait plus rempart. Étiage partiel des eaux de la Comadougou. Quelques mots de la météo demain pour l'Hexagone. Il y aura des averses avec du vent fort sur le sud-est avant l'arrivée de la pluie par l'ouest. Ce journal était préparé avec Caroline Beneteau.